De retour à État du Splendeur, vous êtes toujours en compagnie de Patrick Assikian et nous parlions de charcuterie, du fait que jusqu'à tout récemment, c'était un peu difficile de produire des charcuteries artisanales au Québec. C'est toujours un certain défi puisque le cadre réglementaire est assez strict, mais c'est très possible de faire des charcuteries artisanales. Et puis, il y a différentes entreprises, trois principalement, qui se sont penchées sur le besoin de faire des charcuteries authentiques et puis ils ont fort bien réussi. On disait précédemment, avant la pause publicitaire, que le saucisson a été produit au Québec depuis fort longtemps, mais de manière industrielle, et c'était difficile de trouver des saucissons fermiers tels qu'on les retrouvait dans des marchés fermiers en Europe et d'autres charcuteries d'ailleurs, mais que avec le bio et puis la production de différents élevages, notamment de porcs bio, il y en a certains qui ont décidé de pousser l'initiative encore plus loin et de faire des charcuteries vraiment travaillées. Et puis c'est ce qu'on a enfin retrouvé dans le bas du fleuve. Une compagnie qui s'appelle Le Fou du Cochon qui font une production de porcs, mais très bien élevée, 100% bio. C'est des porcs qui sont très relax, qui donnent une viande très tendre. Et puis, ils font des saucissons, mais vraiment des saucissons du terroir avec une membrane naturelle et qui sont vraiment vieillis tels que se doit. Et puis, ils sont vraiment en pleine activité de lactofermentation. Et puis, le goût de ces saucissons est incomparable à n'importe quel autre saucisson qui est produit de manière plutôt industriel. Quoi qu'il y ait des très bons saucissons industriels, je ne veux pas dénigrer ça, c'est juste que c'est intéressant parce que c'est un nouveau produit qui vient d'apparaître, ben, qui vient d'apparaître depuis le début des années 2000. Et puis, ils font des saucissons du terroir, c'est-à-dire, ils ont ce qu'ils appellent des grelots, c'est des tout petits saucissons, par exemple. Et puis, ils les font vieillir avec le foin de batture. Le foin de batture des bas du fleuve, dans la région de la Pocatière, ça. Et les foins de batture, comme bon nombre de personnes le savent, ont un petit goût salin, puisqu'ils poussent sur le bord de la zone du fleuve qui commence à toucher au golfe du Saint-Laurent, et qui est donc relativement salé. Et ça influence le saucisson, et puis ça donne vraiment un goût du terroir, ça fait ressortir les particularités du terroir, d'où sont faits les grelots au foin de batture. Et c'est donc digne de mention, ça. Le Fou du Cochon est enfin un vrai producteur de saucissons québécois. Et il y a aussi, un peu plus loin, si on continue toujours dans le golfe du Saint-Laurent, on va retrouver le Cochon Touron, et ça c'est aux îles de la Madeleine. C'est une fort favorable, une fort heureuse histoire plutôt. C'est que c'est le fondateur de la fromagerie Le Pied de Vent. La fromagerie Le Pied de Vent étant un des premiers fromages au lait cru qui faisait partie de la renaissance des fromages québécois il y a une vingtaine d'années. Et puis, ce fromage des Îles-de-la-Madeleine est devenu un peu comme emblématique des Îles-de-la-Madeleine. Justement, là aussi, les vaches vont manger du foin de batture et puis donner un caractère un peu salin et particulier au fromage et vont l'influencer de manière subtile. Et malheureusement, ce fromage-là n'est plus au lait cru, mais ça, c'est une autre histoire. C'est toujours le cadre réglementaire relativement strict qui fait de sorte qu'il a fallu le thermiser récemment. Mais toujours est-il que la fromagerie du Pied-de-Vent a survécu jusqu'aujourd'hui et continue à produire des très bons fromages. Et le producteur qui a fondé la fromagerie du Pied-de-Vent a vendu sa compagnie et s'est adonné à une autre activité, c'est-à-dire l'élevage des cochons. Il s'est parti un élevage. Et puis, c'est un élevage de cochons, mais non pas commercial. C'est des cochons qui sont, là encore une fois, très bien élevés, ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est très possible. Aux Îles-de-la-Madeleine, c'est des cochons très heureux qui vivent là et qui sont abattus pour faire un jambon. Évidemment, oui, les jambons proviennent des porcs et puis c'est des porcs qui sont nourris avec le petit lait de la fromagerie du Pied-de-Vent. Il y a donc un lien avec son ancienne compagnie qui était la fromagerie du Pied-de-Vent. quand on utilise le caillé du lait pour faire du fromage, le fromage du Pied-de-Vent ou le Jeune Cœur ou un autre fromage de cette fromagerie-là, le caillé du lait, c'est plus ou moins les minéraux et le gras du lait qui coagulent ensemble, et puis il reste un liquide plutôt transparent qui s'appelle le petit lait ou le lactosérum. Et puis ce petit lait-là est quand même rempli de protéines. Et puis traditionnellement, on le donnait aux cochons. Et puis donc le producteur de cet élevage de cochons a décidé de faire une pierre deux coups et récupérer le lactosérum de la fromagerie du Pied-de-Vent et de le donner à ses cochons. Et puis ça, c'est une bonne idée car ce lactosérum de haute qualité donne des qualités aussi à la viande. Et puis c'est ainsi qu'il s'est mis à fabriquer un prosciutto. Mais un prosciutto assez phénoménal, puisque bon, il a été étudié là où il faut, et puis il travaille vraiment. Ben, en fait, on ne peut pas dire que c'est un prosciutto, puisque les vrais prosciutto sont d'origine italienne, et puis il faut laisser à César ce qui est à César. Le San Daniele et puis le prosciutto di Parma, ça c'est indélogeable, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'enfin, on fait un jambon qui est très respectable au Québec. C'est donc un jambon cru, et puis c'est un jambon cru qui est fait avec une des meilleures productions de porc dans l'Amérique du Nord. Au moins ça, c'est certain. C'est donc quelque chose à découvrir que les charcuteries, si vous n'êtes pas végétarien, évidemment, c'est des charcuteries qui sont très bien faites avec des animaux qui sont très bien traités. Et puis, vous pourrez trouver ça si vous fouillez un peu dans les marchés publics, puisque je ne vais pas nommer des détaillants individuels, mais dans les marchés publics, généralement, on peut trouver les jambons des îles de la Madeleine et puis les saucissons du fou du cochon. Et aussi, d'ailleurs, si vous fouillez un peu, il existe un boucher à Montréal qui fait un prosciutto de sanglier, ce qui là aussi est une particularité assez rare. Je ne mentionnerai pas exactement où on peut se le procurer, mais le prosciutto au sanglier et puis le prosciutto ou le jambon cru des îles de la Madeleine sont des denrées relativement rares dont il faut encourager l'existence. Donc, je vous encourage fortement à en acheter pour permettre à cette tradition de subsister au Québec. On va aller rejoindre les Stone Roses en musique tout de suite sur Radio Centre-Ville.
Your hands will fail if I
C'était les Stone Roses avec la pièce Made of Stone. Et puis maintenant, nous allons parler de miel en général et plus précisément d'hydromel. Souvent, on parle de tradition ici à État de Splendeur et puis il faut faire attention puisque on parle en fait de culture authentique qui se retrouve notamment à travers les traditions, mais la culture authentique n'est pas synonyme de folklore. La culture authentique qui est explorée par État de Splendeur est faite autant de traditions que d'avant-garde, en fait. Le dénominateur commun, c'est le travail et le souci du bienfait. On parle d'artisans ou d'entreprises qui font un effort pour mettre en valeur les particularités de nos ressources. Et puis... Ce type d'exercice se faisait dans le passé, mais se fait aussi aujourd'hui. Et puis, on peut retrouver des incarnations de culture authentique, des différentes manifestations de culture authentique aussi dans l'avant-garde et puis dans ceux qui travaillent avec la technologie ou dans ceux qui travaillent pour créer des nouvelles traditions, si on veut. Un exemple d'avant-garde de la sorte, non technologique soit, mais quand même une innovation récente, c'est le cidre de glace qui... désormais quand même très bien connu. C'est un phénomène initié par la compagnie Neige qui font toujours du cidre de glace. Et puis c'est né de l'expérimentation d'un individu fort illustre sur lequel on pourrait faire 18 émissions et des tas de splendeurs. C'est un patriarche, un pilier de la vinification au Québec. Il s'appelle Christian Berthomeuf. Et puis cet individu-là est responsable de l'invention carrément du cidre de glace. C'est le processus par lequel les pommes sont laissées dans nos hivers et puis les hivers différents vont faire contracter l'eau dans les pommes. Le gel et le dégel vont faire une activité dans la pomme qui va concentrer les sucres et puis les saveurs de la pomme. Et puis après cidrification, ça donne un élixir qui s'appelle le cidre de glace. Cette invention, cette découverte date de 1988 et donc très récente. Et puis pourtant, ça donne un produit qui... Le cidre de glace, l'authentique cidre de glace, il faut faire attention parce qu'il existe des produits qui sont des vulgaires jus de pomme congelés qui sont cidrifiés ensuite et il faut faire la différence entre ça et puis un authentique cidre de glace qui est composé de pommes qui ont véritablement ressenti l'hiver et puis son activité. Et puis chaque hiver étant différent, chaque année de cidre de glace est aussi différent. Et puis c'est un des rares produits qu'on fait au Québec qui peut vieillir pendant 10, 20 ans facilement et qui va vraiment se bonifier avec le temps. Et c'est la marque généralement d'un alcool fort respectable. Eh bien, ça, c'est un exemple de tradition qui vient naître récemment. Et puis, il en existe d'autres. Il y a une multitude d'artisans inconnus qui travaillent dans l'ombre à faire des recherches pour raffiner nos régions et puis nos terroirs et leurs ressources. Et il existe un hydromélier au Québec qui fait partie de cette avant-garde et son nom, c'est Pierre Gosselin. Pierre Gosselin travaille en apiculture. Bon nombre de personnes travaillent en apiculture, mais lui, il pratique l'apiculture pastorale depuis les années 70. Un beau jour, un de ses amis lui a laissé, qui partait en voyage, un de ses amis qui s'occupait de ruches a décidé de lui confier des ruches pendant son départ en voyage, et puis il s'est réveillé, il a ouvert sa porte, et puis il y avait des ruches. C'était donc la première journée en apiculture de Pierre Gosselin. Depuis ce temps-là, il a décidé de peaufiner son art par tous les moyens possibles, et puis il a été chercher un savoir-faire phénoménal, réellement phénoménal. L'apiculture pastorale que Pierre Gosselin pratique, c'est une apiculture spéciale, c'est-à-dire qu'il va se promener avec ses ruches pour faire des miels spécifiques. Il ne veut pas juste un miel de trèfle ou un miel de fleurs sauvages. Il veut aller chercher des zones où, dans différentes clairières, il y a telle plante spécifique, par exemple la verge d'or. Il va amener ses ruches dans la clairière où il y a de la verge d'or et puis va surveiller ses ruches et voir s'il peut reconnaître le miel de la verge d'or et extraire un miel spécifiquement de une plante seulement. Et c'est assez, c'est comme, c'est-à-dire que c'est une forme d'apiculture encore plus artisanale et c'est une apiculture du terroir, si on veut, puisque ça va sortir la typicité d'une seule plante. Et puis c'est un des rares au Québec qui fait différents miels qu'on peut retrouver d'une part ailleurs en Amérique du Nord, du moins, comme par exemple le miel de tilleul. Miel de tilleul, ça doit être le seul producteur au Québec qui en fait. S'il en existe un ou deux autres, c'est le maximum possible, puisque c'est excessivement rare, le miel de tilleul, surtout en Amérique du Nord. Et puis, donc, il s'est pratiqué, et puis il a fait différents essais, erreurs, expérimentations, et il a raffiné son art d'apiculture pastorale, et puis a décidé de faire de l'hydromel. Non sans aller chercher ou aller puiser du savoir-faire en France. Il a travaillé avec différents alliages de miel et puis a commencé à faire des hydromels, mais a toujours cherché à se démarquer, ben, pas nécessairement à se démarquer, mais à faire des hydromels vraiment, vraiment respectables. Et puis donc, il a été acheter des barriques, des tonneaux de cidre en France et aux États-Unis, et puis s'est mis à faire vieillir ces hydromels. Les hydromels qui sont évidemment des vins de miel. Et puis, il a développé une méthode avec le temps qui est fort adaptée à sa production de miel à lui. Et puis, il fait vieillir ses hydromels dans des fûts de chêne pendant un minimum de 8 ans. Et puis, il pratique une certaine forme de production d'hydromel qui est assez difficile de retrouver ces temps-ci. Il pratique le bâtonnage, c'est-à-dire que régulièrement, il va retourner dans son tonneau et puis remettre les particules en suspension pour redonner du goût à son hydromel. Régulièrement, il va tout le temps surveiller ses tonneaux. Il fait pas juste oublier ses tonneaux pendant 8 ans, il travaille dessus pendant 8 ans, là. Et puis, il utilise un miel spécifique pour ses hydromels. Et puis, c'est-à-dire que les abeilles vont récolter le nectar, et puis le nectar, ça va être la nourriture des ouvrières. Et puis, ils vont mettre ça dans des alvéoles, dans une zone particulière de la ruche, et puis ils vont recouvrir le tout d'une capsule de cire. L'alvéole va être recouverte d'une capsule de cire une fois que les abeilles jugent que le miel est parfait et est prêt. Souvent, les miels commerciaux qu'on a, on n'attend pas que la petite capsule sur le dessus se fasse et puis que l'abeille juge que le miel soit prêt. Ça coûterait excessivement cher faire ça. Mais M. Gosselin utilise que le miel dont les abeilles ont jugé qu'il était parfait, donc qui est scellé par les abeilles. Et puis, il utilise ce miel-là. Et bon, les qualités de ce miel-là sont comme catalysées par sa méthode de travail. Et puis, il a inventé toutes sortes de différents hydromels qui sont phénoménaux, qui on penserait jamais, mais à travers ces alcools, on peut goûter le jour et la nuit. Si on prend un hydromel et on le compare à un autre, c'est complètement différent. Les qualités sont complètement différentes. Évidemment, c'est un peu difficile de l'écrire de manière auditive, mais c'est fort surprenant de voir ce que M. Pierre Gosselin a réussi à faire avec ses hydromels du Clos des Brumes. Et puis, il y a une dernière invention qui, évidemment, a pris plusieurs années à réaliser, c'est que M. Gosselin est devenu grand-père et puis il a inventé un hydromel qui s'appelle le Thomas. Le Thomas, le fruit de plusieurs années de travail, est vieilli en différents fûts. Il y a des fûts de chêne français qui sont utilisés. Il y a une autre version avec du fût de chêne canadien. Mais la particularité, ou une des particularités de cet élixir-là, c'est qu'il laisse les tonneaux dehors à l'hiver, au gel et au dégel. Et puis ce gel et dégel va travailler l'élixir et puis faire ressortir des notes vraiment, vraiment uniques. Il y a même des œnologues français qui viennent et qui sont estomaqués par la production de M. Pierre Gosselin. Dans le Thomas, il y a des notes si nobles que seule façon de décrire ça que je connaisse, c'est que ça redonne le goût de vivre. Et puis, ça peut même donner la larme à l'œil, là. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas goûter à cet élixir, ou fort probablement pas, puisqu'il y a seulement 200 bouteilles. Alors, c'est vraiment une production, si je peux me permettre l'expression, underground, là. C'est 200 bouteilles, mais d'une bouteille qui ferait frémir n'importe quel œnologue de n'importe où sur la planète. C'est vraiment une des boissons les plus respectables produites au Québec, là. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez toujours surveiller notre site étatdusplendeur.com. C'est État au singulier et État au pluriel et singulier pour splendeur. C'est étatdusplendeur.com. Et puis, à la fin du mois d'août, on va avoir un reportage sur l'hydromêlerie du Clos des Brumes. Donc, ça reste toujours à surveiller. Mais je tenais à souligner cette récente invention de M. Pierre Gosselin, puisque c'est en quelque sorte un hydromel de glace, quoique pas tout à fait, mais c'est une nouvelle façon de produire de l'hydromel qui est issue du Québec et qui vient d'être inventée. Et puis je tire mon chapeau bas à M. Pierre Gosselin et au Clos des Brumes. Nous allons maintenant écouter pour quelques secondes Gilles Vigneault.
Ainsi que l'ont fait nos ancêtres, nos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes. On chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Cœur qui fait tourner la terre, qui bat pour rencontrer les siens, c'est le musicien solitaire le plus ancien. Il cherche encore la mélodie qui mettrait les cœurs en accord et l'âme tout en harmonie avec le deviendront des ancêtres. Je vois déjà nos descendants savoir enfin naître et renaître aux mains du temps. Le chant est dans la poésie, ainsi que les fruits dans les fleurs et les vendanges de la vie au bout du cœur. Ainsi que l'ont fait vos ancêtres, vos petits-enfants partiront. C'est dans l'espoir de se connaître qu'on tourne en rond. On fait des pas, des mots, des gestes. On chante pour cacher sa peur. On part pour apprendre qu'on reste au bout du cœur. Au bout du cœur.
C'était Gilles Vigneault avec la pièce Au bout du cœur. Je jugeais que c'était quand même nécessaire et fort à propos, puisque les paroles parlent de comment les jeunes d'aujourd'hui deviendront les ancêtres de demain. C'est déjà malheureusement la fin de l'émission État de splendeur, et puis nous n'aurons point le temps de parler de la ville fantôme de la côte nord en question. La chronique fantomatique sera une fois de plus remise à la semaine prochaine. Il me reste plus qu'à annoncer qu'il y a très bientôt un powwow fort intéressant qui se déroulera du 5 au 7 août. C'est le powwow de Manawan, ou que certains appelaient de manière erronée la Manawan. C'est ça, le powwow de la Manawan, c'est dans l'Anaudière. Et du 5 au 7 août, il va y avoir différentes danses, il va y avoir beaucoup de nourriture, des compétitions, de l'artisanat. Et si vous voulez le visiter, c'est une bonne occasion de rentrer en contact avec la culture authentique des Atikameks. Et si vous voulez, il y a une liste partielle de différents powwow dans la section à surveiller du site de etatdusplendeur.com. C'est etatdusplendeur.com. Et vous pouvez toujours laisser des commentaires ou suggestions pour l'émission. C'est tout le temps qui nous reste. C'est donc Patrick Assikane qui vous dit à la semaine prochaine. Et je vous laisse avec une pièce qui s'appelle Suffer sur les ondes de Radio Centre-Ville. Bonne semaine!
L'événement Les Parcs en prose vous offre gratuitement des livres dans plusieurs parcs à Montréal. Pour connaître les détails, visitez les sites web suivants. Les Ailes de la Culture et Édition Point de Fuite Radio Centre-Ville sont les fiers partenaires de cette première édition.
Ne manquez pas Voyages musicaux. Une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkantner
et Sabina Amandara, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Retrato sem bilhete, sem luar.